Vous écoutez, on lit pour vous.
Audisme et sourditude, les dimensions affectives de l'oppression. Un texte de Véro Leduc, paru au printemps 2017 dans la revue du Crémis. T'es sourde? Mais tu parles! En nommant l'une des réactions fréquentes qu'ont les gens lorsqu'ils réalisent qu'elle est sourde, Émilie soupire. C'est comme si le fait de parler ne correspondait pas au stéréotype du sourd qu'on croit muet. À l'instar d'autres protagonistes de « C'est tombé dans l'oreille d'une sourde », elle partage en langue des signes québécoise, LSQ, ce que signifie pour elle la sourditude, c'est-à-dire le fait de vivre comme personne sourde. Vivre une appartenance à une ou plusieurs communautés sourdes est pour plusieurs une source de fierté, mais nous relie également à l'expérience réitérée de « ça se répète sans cesse ». La langue des signes, c'est pas universel? Je pensais qu'il y en avait juste une. Ironise Pamela en soulignant cet exemple fréquent de microagression. Ces questions, remarques et commentaires sont souvent formulés sans l'once d'une mauvaise foi, mais à force de répétition, ils forgent une dimension singulière de l'oppression dans un contexte où les personnes sourdes ont l'impression qu'il y a près de 90 % des entendants-entendantes qui n'y connaissent rien aux sourds et aux sourdes. Appréhender l'expérience de l'oppression dans sa complexité, voilà ce qui a guidé ma recherche doctorale. Pour la philosophe féministe Iris Marin Young, l'oppression est ce désavantage et cette injustice que certaines personnes éprouvent, non pas comme une coercition d'un pouvoir tyrannique, mais en regard de pratiques quotidiennes d'une société libérale bien intentionnée. L'oppression est l'expérience généralisée d'une injustice systémique, y compris dans ses formes les plus subtiles, qui s'actualise au sein de divers rapports de pouvoir. Si l'oppression prend place dans des pratiques bien intentionnées, c'est, entre autres, parce que ces dernières reposent sur certaines formes d'ignorance, elles-mêmes étroitement liées à leurs conditions sociales, politiques, historiques et culturelles de possibilité. Young évoque l'oppression comme ce qui est expérimenté lors de pratiques quotidiennes. Mais de quoi est formée cette expérience? Comment est-elle vécue? De quoi s'alimente-t-elle? Cette interrogation des différents angles permettant de réfléchir à l'oppression et ses manifestations quotidiennes est au cœur des rencontres avec les personnes sourdes mises en scène dans la BD. Si l'oppression se vit dans les multiples rapports aux autres et à travers diverses problématiques sociales ou communicationnelles, j'aimerais m'attarder ici à certains enjeux relatifs à l'oppression vécue par les personnes sourdes et malentendantes. Cela me permettra ensuite de proposer quelques réflexions sur les dimensions affectives de l'oppression. Audisme, quelques formes d'oppression. L'oppression systémique affecte de façon particulière les personnes sourdes et malentendantes, notamment à travers l'audisme. L'audisme peut être défini comme un système normatif subordonnant les personnes sourdes et malentendantes par un ensemble de pratiques, d'actions, de croyances et d'attitudes qui valorise les personnes entendantes et leur façon de vivre, par exemple, entendre parler. Au détriment d'une diversité de mobilité et de langue, des signes. De façon plus détaillée, le terme « audisme » désigne différentes formes d'oppression vécues par les personnes sourdes et malentendantes, le Duc 2015. Il y a par exemple la croyance selon laquelle les personnes qui entendent sont supérieures en fonction de leur aptitude à entendre, à parler et à agir comme quelqu'un qui entend, et donc supérieures à celles qui sont sourdes ou malentendantes. La manifestation historique et systémique de la domination et de l'autorité imposée par le monde entendant aux communautés sourdes. La discrimination et les préjugés envers les personnes qui sont sourdes ou malentendantes. La hiérarchisation de la surdité et de l'audition en subordonnant la première à la seconde. La hiérarchisation des langues des signes et des langues orales en subordonnant les premières aux secondes, voire le dénigrement ou la subalternisation des langues des signes. Et la supposition selon laquelle le langage et la parole sont des concepts interchangeables. Au quotidien, l'audisme s'incarne de multiples façons, mais j'ai choisi ici de m'attarder à trois formes, à savoir la stigmatisation, l'intériorisation de l'oppression et le passing, afin de m'intéresser plus précisément aux dimensions affectives. Stigmatisation. La stigmatisation a pour effet de faire passer la représentation d'une personne que l'on croyait ordinaire à une représentation d'être anormal. Pionnier des études sur le sujet, Irving Goffman soutient ainsi que malgré les jeux de normes, ce qu'éprouve un individu stigmatisé au plus profond de lui-même, ce peut être le sentiment d'être une personne normale, mais en même temps, il peut fort bien percevoir, d'ordinaire à juste titre, que, quoi qu'il professe, les autres ne l'acceptent pas vraiment, ne sont pas disposés à prendre contact avec lui sur un pied d'égalité. La stigmatisation des personnes sourdes et malentendantes résulte en partie des normes forgées par le modèle médical qui situe la surdité comme une incapacité individuelle et les langues des signes comme des sous-langues. En fait preuve, l'insistance avec laquelle on continue à dire « langage des signes ». Si les personnes ayant une limitation visible sont plus sujettes à être discréditées de prime abord, dans le cas des personnes sourdes, c'est l'usage d'une langue des signes qui rend visible la différence susceptible d'engendrer un discrédit. Comme le font remarquer certaines personnes sourdes dans la bande désignée, la tonalité de la voix, le fait de ne pas comprendre un message dans une interaction communicationnelle ou la nécessité d'avoir recours à des services d'interprétation sont d'autres éléments pouvant engendrer une stigmatisation. Bien souvent, c'est le fait même d'être une personne sourde, sans égard à un trait particulier, sinon à un ensemble de préjugés, qui cause stigmatisation et discrimination. Les discriminations en matière d'emploi et d'immigration ne sont que deux exemples parmi d'autres. Intériorisation de l'oppression. Fanon désigne l'aliénation psychique comme l'expérience la plus prononcée de minorisation en ce que l'intériorisation des forces de socialisation définit, produit, maintient les différences de pouvoir entre les groupes de personnes. Comptant parmi les manifestations de l'intériorisation de l'oppression, la honte est l'un des effets les plus notoires de la stigmatisation. Elle consiste en un sentiment qui affecte le plus le soi et qui est davantage central au sens de l'identité que d'autres affectent. L'intériorisation de l'oppression ou l'audisme intériorisé peut se manifester par la honte d'être sourde ou malentendante dans un contexte entendant. Une désidentification de certaines personnes sourdes et malentendantes aux cultures sourdes, ou encore un sentiment de culpabilité lié aux accommodements nécessaires pour déconstruire des barrières à l'accessibilité. Si l'étude de Jambore démontre que les personnes sourdes ayant une identification à une communauté sourde ou des compétences culturelles leur permettant de naviguer à la fois dans le monde sourd et entendant, ont généralement une meilleure estime d'elles-mêmes, cela ne les épargne pas de vivre, à certains moments de leur vie, une intériorisation de l'audisme. Certes, l'incapacité, le handicap, la surdité ou la langue de sa communauté peut ne pas faire partie de la manière dont une personne s'identifie. L'autoreprésentation peut être forgée davantage par le genre, l'ethnicité, la religion ou l'orientation sexuelle. De plus, bon nombre de sourds ou sourdes se définissent plutôt comme membres d'une minorité linguistique et plusieurs refusent d'être considérés comme des personnes handicapées. Dans tous les cas, il me semble important de différencier les contextes de personnes ayant eu la possibilité de prendre conscience de leur appartenance de celles qui n'ont pas eu cette opportunité. En d'autres mots, il y a une différence entre refuser une appartenance consciemment et refuser de nommer une partie de soi-même dans un contexte historique d'oppression. L'appartenance n'est pas une préférence individuelle, ni une question de volontarisme. Elle est intimement liée à l'historicité du pourquoi, comment, où et avec qui nous nous sentons appartenir. Vous écoutez Audisme et sourditude, les dimensions affectives de l'oppression. Un texte de Véro Leduc, paru au printemps 2017 dans la revue du Crémis. Passe, laissez passer. Généalogiquement, le passing 15 était associé au fait de passer pour une personne blanche à titre de personne noire américaine, et ce, en dépit d'un lien à des ancêtres noirs. D'abord pensé au niveau de la race, le concept de passing a été développé également à l'égard du genre, de l'identité sexuelle, de l'orientation sexuelle, du handicap et de la surdité. Le passing implique généralement la tentative de cacher une identité ou certains éléments d'une identité oppressée, d'être perçu ou vouloir être perçu comme une membre du groupe dominant, d'accéder à des privilèges sociaux, d'atténuer les effets de l'oppression ou d'être considéré comme une personne humaine à part entière. Contrairement au genre et à la race, dont la visibilité façonne de façon singulière la lecture sociale, l'hétérosexualité, la capacité et l'entendance sont souvent présumées. Tout comme l'hétérosexualité et le capacitisme qui opèrent comme des non-identités, comme l'ordre naturel des choses, l'entendance est souvent présumée jusqu'à ce que survienne un événement secouant cette présomption. En prenant l'exemple des lesbiennes, des personnes queer féminines et des personnes ayant un handicap non visible, Ellen Samuels remarque que ces identités exigent de prendre des décisions quotidiennes. Passer ou se dévoiler? Cette question se pose de façon similaire pour les personnes sourdes et malentendantes. Agir dans les contextes communicationnels comme si on était entendant-entendante ou se faire prendre pour une entendant-entendante sont deux exemples de passing pour les personnes sourdes et malentendantes. L'usage de la parole, la lecture labiale et l'usage de l'ouïe par la déduction auditive sont des gestes qui s'apparentent aux façons dont les entendants-entendantes communiquent et peuvent donner l'impression que le degré de surdité est moindre qu'en réalité. Le passing revêt également un sens politique. Avoir la possibilité ou le choix de passer est généralement considéré comme un privilège, dans un contexte où l'affirmation de soi consiste en un processus politique qui exige d'assumer certaines appartenances sociales. Les logiques de visibilité étant centrales à une bonne partie des politiques queer, sourdes et handicapées, le dévoilement est généralement valorisé alors que le passing est considéré assimilationniste, voire comme un acte de trahison. Cela tient au fait que la dissidence est valorisée comme une résistance à l'omniprésence de l'hétéronormativité, du capacitisme et de l'audisme en tant que composante centrale de l'agentivité politique. Or, pour les personnes sourdes ou handicapées, choisir ou être amené à se dévoiler à quelqu'un se traduit souvent par un impératif d'expliquer la sourditude ou le handicap, bien que ce ne soit pas suffisant pour déconstruire les rapports de pouvoir à l'œuvre. Le passing opère ainsi dans les rapports de pouvoir, sans lesquels il n'y aurait pas forcément de bénéfice à cacher des aspects de soi-même. Paradoxalement, il crée une double distance, à la fois vis-à-vis du groupe dominant auquel nous n'appartenons pas ou auquel nous ne sommes pas autorisés à appartenir, que vis-à-vis du groupe subjugué vis-à-vis duquel il y a certaines formes de désidentification. Refusant la possibilité d'être stigmatisé, des personnes sourdes et malentendantes peuvent vouloir passer pour des entendants-entendantes. Mais il arrive que le passing opère sans qu'il y ait un désir explicite de le faire. Cela advient, par exemple, lorsqu'un entendant-attendante découvre qu'il, elle, a affaire à une personne sourde ou malentendante sans s'en être rendu compte préalablement, notamment dans le cas de celle qui parle. Dès lors, il n'est pas rare de se faire féliciter. « Tu parles bien malgré tout. Tu le caches vraiment bien. » Comme le souligne Émilie dans la BD, ce genre de commentaire peut être vécu par plusieurs comme une oppression, qui se manifeste de façon affective par une dissonance entre, par exemple, la fierté d'une appartenance sourde et l'allusion au fait que parler est une aptitude davantage valorisée que de signer. Le passing est ainsi forgé par une multiplicité de couches qui s'arrime de façon complexe à travers divers contextes communicationnels. Cette exploration de la stigmatisation, de l'intériorisation, de l'oppression et du passing esquisse une cartographie complexe des rapports de pouvoir au sein desquels prend forme l'expérience de l'oppression. Les répercussions de celle-ci sont diverses, allant des enjeux de santé mentale 21 à un manque de reconnaissance sociale, en passant par un sentiment réitéré d'impuissance. Si des formes de pouvoir d'agir considérables prennent forme à travers l'expérience de l'oppression, les différents témoignages de « c'est tombé dans l'oreille d'une sourde » invitent à être sensible à ces répercussions. Les dimensions affectives de l'oppression. Durant les années 1990, des intellectuels du champ des Cultural Studies, études culturelles, ont constaté les limites du constructivisme et du post-structuralisme à n'appréhender le monde qu'à travers le langage, la représentation et la construction sociale, et celle de la psychanalyse à n'interpréter l'affectif, dont le trauma, qu'à travers les significants psychologiques. En s'intéressant à l'affect, Brian Massumi décrit cette sensation comme la première lueur d'une expérience déterminée, les surfaces sensitives du corps agissant comme les murs sur lesquels résonne l'affect, et ce, à divers degrés d'intensité, qui qualifieront l'expérience. Non seulement l'affect résonne sur les surfaces sensitives du corps, mais il y laisse une impression singulière, comme un relief ou une texture dense qui offre des informations sur la manière dont, substantivement, historiquement, matériellement, elle en est venue à être. Lorsque Jung affirme que l'oppression est éprouvée dans les pratiques quotidiennes, une panoplie de gestes, de pratiques, voire de choses indicibles, pourraient être données en exemple. Dans la BD, Tiara souligne l'injustice qui permet aux personnes entendantes d'avoir accès aux institutions culturelles, dont la très grande majorité est pourtant inaccessible aux personnes sourdes. D'origine britannique et aujourd'hui étudiant au doctorat en linguistique, Daz relate la foi où un professeur de langue lui a dit qu'il était inutile d'apprendre le français s'il ne pouvait pas le parler, sous-entendant le parler sans accent sourd. Pour ma part, je pense à tous ces événements qui ne sont pas accessibles et qui sont pourtant organisés par des gens progressistes et sensibles à d'autres types de rapports de pouvoir. Ainsi, la vie quotidienne est formé de mille et un détails qui forgent affectivement notre rapport au monde en tant que personne sourde. En réfléchissant aux émotions d'un point de vue fort politique, à mon sens, Sarah Ahmed remarque leur rôle central dans l'expérience de l'oppression. Elle remet ainsi en question le postulat selon lequel les émotions seraient individuelles. Les émotions ne sont pas simplement quelque chose de « j'ai » ou que « nous avons ». Elles forgent l'expérience et les possibilités d'êtres humains et de collectivités de façon singulière. Interrogeant, à l'instar d'Ahmed, l'incidence de la répétition sur le fonctionnement des corps et des mondes, je me suis intéressée aux dissonances affectives. Dissonance. Le concept de dissonance permet de qualifier ce qui est précisément éprouvé lors des interactions oppressives auxquelles fait référence Jung. La dissonance pourrait être appréhendée en termes d'affect émergeant de dissensions momentanément indicibles parce qu'inintelligibles dans la matrice communicationnelle de l'oppression quotidienne. En d'autres termes, la notion de dissonance permet de saisir ce qui est éprouvé lorsque des formes de micro-violence surgissent ou deviennent familières, sans qu'elles ne puissent pour autant être nommées ou explicitées dans les moments communicationnels ordinaires. En certains lieux et dans certaines interactions, nous pouvons nous sentir intensément affectés, voire bouleversés. La dissonance affective résultant de certaines situations de passing en est un exemple, celle-ci pouvant être amplifiée par l'impossibilité de l'exprimer ou de la laisser paraître lorsqu'elle surgit. La dissonance a été étudiée dans sa dimension systémique, psychologique ou encore dans des contextes professionnels. Elle peut aussi être considérée dans une perspective plus vaste, célébrant son potentiel créatif et politique. Dissonance, clash, tension, disharmonie, déséquilibre, contradiction, agitation, irrésolution, déséquilibre. Ni bruit, ni cacophonie. La dissonance amalgame l'incompatible avec pour résultat la surprise, la blessure, l'invitation, la perturbation et la mise en émoi, l'incitation et la créativité. La dissonance suscite et fait des flamèches, des étincelles. Pensez à la dissonance comme le cliquetis sans fin des notes et des accords en dissonance musicale, des idées en dissonance cognitive, des systèmes de vie en dissonance culturelle, de mots en dissonance poétique. À l'égard des personnes sourdes, les affects émergeant de dissensions entre les définitions sociales normatives, malentendant, malentendante, et l'auto-identification, sourd, sourde, entre une attente envers certaines personnes et leurs actions concrètes, telle une personne alliée qui aurait une attitude audiste inconsciente, ou encore entre les préjugés à l'égard des personnes sourdes et les réalités qu'elles vivent, constituent quelques exemples de dissonance. Au niveau symbolique, le concept de dissonance est porteur en ce qu'il réfère intrinsèquement au son. Les personnes entendantes réfèrent souvent au monde sourd comme celui du silence. Or, la majorité des sourds et des sourdes que j'ai rencontrés perçoivent au moins les vibrations, et parfois même davantage. Même si les sourds sourdes profondes n'entendent pas les rythmes d'un concert, ils et elles les ressentent à travers leur corps et les perçoivent tout de même. Ludwig van Beethoven était sourd et il percevait la musique. L'artiste sourde contemporaine Christine Sun Kim se réapproprie le son, refusant de le considérer comme la propriété des entendants et entendantes. Les dimensions affectives de l'oppression nous invitent à porter un regard nuancé dans nos analyses des rapports de pouvoir à l'œuvre dans nos diverses pratiques. Ainsi, œuvrer à une plus grande justice sociale pourrait signifier de prendre conscience des divers préjugés qui persistent à l'égard des personnes sourdes et malentendantes et d'encourager le développement de pratiques solidaires et conscientisées chez les personnes entendantes. Agentivité. Malgré les difficultés qu'elle engendre dans nos façons de vivre en tant que personnes sourdes et malentendantes, la réitération de la violence culturelle, symbolique, forge également des possibilités d'argentivité. Dans une perspective foucauldienne, Alperin rappelle que le pouvoir n'est pas intrinsèquement ni seulement négatif. Il n'est pas seulement le pouvoir de nier, de supprimer ou de contraindre. Le pouvoir est aussi positif et productif. Il produit des possibilités d'action, de choix, et finalement, il produit les conditions d'exercice de la liberté. Le pouvoir n'est donc pas l'opposé de la liberté. Et la liberté n'est pas une liberté en dehors du pouvoir. Ce n'est pas une zone privilégiée extérieure au pouvoir, hors d'atteinte du pouvoir, mais une potentialité interne au pouvoir et même un des effets du pouvoir. C'est parce que je ressentais une forte dissonance à ce qu'il n'y ait aucune bande dessinée entièrement en langue des signes que j'ai eu envie de mener une recherche création. Grâce au potentiel des technologies numériques, la BD est devenue site d'agentivité et de créativité en permettant à des personnes sourdes de témoigner en signant de leur sourditude à travers les mille nuances du quotidien. Ce faisant, la BD contribue à développer des savoirs signés nécessaires au renouvellement des perspectives épistémologiques et des pratiques solidaires. J'ai mené cette recherche avec le souhait qu'une meilleure compréhension des subtilités de l'oppression vécue par les personnes sourdes et malentendantes puisse générer des conditions de sensibilité génératrices de nouvelles possibilités pour le devenir de la sourditude et pour le devenir de nos sociétés formées de personnes entendantes, sourdes et malentendantes. Je désire que ces nouvelles possibilités prennent la forme de transformations au sein de nos pratiques quotidiennes, culturelles et communicationnelles, et tout particulièrement à travers ces bouts d'existence que sont les rencontres et les interactions qui tissent nos vies et lui donnent sens. La déconstruction des privilèges entendants offre en ce sens des avenues prometteuses. C'était Audisme et sourditude, les dimensions affectives de l'oppression. un texte de Véro Leduc, paru au printemps 2017 dans la revue du Crémis.
Tourisme autochtone, les revenus ont baissé de 22 % depuis 2019, selon une étude, un texte de Myriam Bouliane, paru le 4 février 2025 dans Espace autochtone. Le tourisme autochtone n'est pas encore revenu au niveau pré-pandémique de 2019, selon une étude réalisée par le Conference Board du Canada et l'Association touristique autochtone du Canada. Les deux organisations attribuent cela à l'inflation et à la pénurie de main-d'œuvre et demandent un soutien financier du gouvernement fédéral pour relancer l'industrie. En 2023, la contribution du tourisme autochtone au PIB canadien était de 1,6 milliard. Il s'agit toutefois d'une baisse de 10 % par rapport à 2019 et d'un recul de près de 24 % en tenant compte de l'inflation, soutient l'étude publiée le 4 février, Nouvelle Fenêtre. Selon Alan Schaff, le directeur associé de la recherche économique au Conference Board du Canada, le tourisme autochtone est confronté à des pressions inflationnistes plus importantes que les autres secteurs. Il cite en exemple les prix des produits et services touristiques qui, en 2023, étaient 18,8 % plus élevés qu'en 2019, dépassant le taux d'inflation de 15,5 % pour l'ensemble de l'économie au cours de la même période. Ainsi, en tenant compte de l'inflation, les revenus du secteur du tourisme autochtone sont passés de 3,8 milliards en 2019 à 3 milliards en 2023, soit une baisse d'environ 22 %. De plus, même si dans les dernières années le nombre d'entreprises touristiques autochtones a augmenté, celles-ci comptent aujourd'hui moins d'employés. En 2023, plus de 2750 entreprises et organisations faisaient partie du secteur du tourisme autochtone au Canada, comparativement à 1900 en 2021. Toutefois, la main-d'œuvre directe du secteur en 2023 s'élevait à 34 711 personnes, soit près de 5 % de moins qu'en 2019. L'étude mentionne également que la rémunération des employés du secteur a diminué, étant inférieure de 6 % par rapport à celle enregistrée en 2019, en raison de l'augmentation des coûts opérationnels et de l'absence d'ajustement des prix pour les expériences touristiques autochtones. Il devient de plus en plus essentiel de mettre en œuvre des stratégies et des programmes de soutien pour retenir la main-d'œuvre en tourisme et faire connaître les possibilités de carrière dans le secteur, écrit-on. Ce rapport fait ressortir l'impact positif du secteur sur l'économie canadienne. Et pour que les entreprises autochtones de tout le pays prospèrent et atteignent les niveaux pré-pandémiques, des investissements continus et à long terme sont essentiels au succès du secteur, dit Keith Henry, le président directeur général de l'ATAC. Le soutien du fédéral demandé. L'Association touristique autochtone du Canada, ATAC, qui se dit préoccupée par le manque de soutien financier et d'investissement, estime que l'apport du gouvernement fédéral est crucial pour relancer l'industrie. Cela représente une occasion perdue tant pour les communautés autochtones que pour le pays. À l'horizon 2025 et au-delà, il sera plus important que jamais que nos partenaires fédéraux, territoriaux et provinciaux unissent leurs efforts et soutiennent collectivement la relance en cours du tourisme autochtone, a déclaré Keith Henry par voie de communiqué. D'ici 2030, l'ATAC s'est donné comme objectif que le tourisme autochtone contribue à hauteur de 6 milliards au PIB canadien et permettent la création de 60 000 emplois directs. C'était Tourisme autochtone, les revenus ont baissé de 22 % depuis 2019, selon une étude, un texte de Myriam Bouliane, paru le 4 février 2025 dans Espace autochtone.
Un système scolaire aux défis multiples. Un texte de François Bellemare, paru le 22 janvier 2025 dans le Nunavois. La clientèle scolaire au Nunavik, avec 3 400 élèves excluant l'éducation aux adultes, représente 27 % de la population totale, le double de la moyenne québécoise de 13 %. À la commission scolaire, Cathy Vic, la directrice générale adjointe, Jenny Dupuis, esquisse les défis particuliers de l'enseignement dans ce contexte de forte croissance démographique, avec des ressources n'augmentant pas au même rythme. Née à la fin des années 1970 à Koudjouak, la capitale du Nunavik, Jenny est triplement représentative de nouveaux paramètres dans l'identité inuite. Au niveau générationnel d'abord, elle reflète le poids numérique des cohortes nées depuis la Convention de la baie James. Étant fille d'un père francophone et d'une mère inuite, elle incarne aussi une nouvelle réalité linguistique. Les Inuits francophones, ayant comme deux langues maternelles le français et l'inuktitut. Au niveau professionnel, enfin, elle illustre la progressive ascension des Inuits dans la gestion des instances publiques. La fusion de ces trois facettes symbolise-t-elle le caractère multiple des défis actuels? Voir le verre à moitié plein. J'ai suivi ma scolarité primaire et secondaire ici, à Koudjouak, comme tous les autres Inuits, mais le collégial au cégep de Saint-Jérôme, pour ensuite revenir travailler au Nord. Et questionnée au sujet de cette commission scolaire qui fêtera bientôt ses 50 ans, Jenny voit-elle le verre à moitié plein ou à moitié vide? Plusieurs objectifs ont été atteints. Citons la notable amélioration des relations avec le gouvernement, avec qui les échanges sont beaucoup plus fluides. On apprécie l'ouverture à considérer des approches alternatives plus adaptées à notre culture. Par exemple, l'intégration des savoirs traditionnels au curriculum qui est un succès, dit Jenny Dupuis. Au début de la commission scolaire, on avait une école primaire par village, mais peu d'écoles secondaires. Pendant longtemps, de très jeunes écoliers des petites localités devaient aller dans les plus peuplées pour compléter leur secondaire. Une priorité a été d'offrir d'abord le premier cycle partout, et ce, dans les deux langues secondes. Puis, a été établi dans chaque communauté le secondaire complet, même des fois pour une petite poignée d'inscrits. C'est un acquis dans chacun des 14 villages. On a aussi développé l'éducation aux adultes. On a ainsi une quinzaine de formations techniques, soudure, électricité, menuiserie, cuisine, informatique, mécanique, auto, véhicules lourds, coiffure, conduite de machinerie lourde, secrétariat, etc., offertes dans 4 communautés du Nunavik. Sans compter quelques programmes de formation intégrés en partenariat avec des entreprises. L'évolution d'un régime scolaire unique en son genre. Les Inuits de la génération précédente ne gardent pas un très bon souvenir des écoles fédérales. Implantées dans l'Arctique par le gouvernement canadien dans l'après-guerre, elles dispensaient un enseignement strictement en anglais, ignorant le français et punissant l'usage de l'inuktitut. À partir de 1964, elles furent timidement concurrencées par un réseau en langue esquimaude que tenta d'établir le gouvernement du Québec pour la maternelle, puis difficilement vers le premier cycle du primaire. Le territoire du Nouveau-Québec, ancienne appellation du Nunavik, accueillit ainsi, quoique développé de façon assez chaotique, l'un des premiers réseaux scolaires publics en langue autochtone sur l'ensemble des Amériques. issue de la CBJNQ, la commission scolaire Kativik, ouvrit un nouveau chapitre en 1978 en fusionnant le tout par l'absorption de l'ancien réseau sous les paramètres du second. La nouvelle structure scolaire a ainsi entrepris de généraliser l'enseignement unilingue Inuktitut de la maternelle à la deuxième année. En troisième année, on enseigne à 50 % en langue seconde l'anglais ou le français, au choix des familles. Un choix stratégique, le curriculum français. Les années suivantes, la langue seconde devient la langue principale d'enseignement. Une particularité vient des 47 % des élèves étudiants en français, un choix stratégique venant souvent de parents ne le parlant pas. Au Québec, parmi toutes les populations de langue maternelle non francophone ayant le droit à l'enseignement en anglais, les Inuits du Nunavik sont en première place à ce chapitre. Ce qui explique un défi pédagogique particulier évoqué dans cette entrevue. L'aide aux devoirs à la maison. Puis, en regardant le verre à moitié vide, la franchise parle. Le recrutement est un combat sans fin, car malgré l'embauche soutenue d'employés qualifiés, notre clientèle augmente toujours. De 1200 habitants, le coup de jouac de mon enfance est passé à plus de 3200 maintenant, une hausse de 150 %. Ce qui alimente deux autres casse-têtes. La poussée des besoins en locaux scolaires ainsi qu'en logement pour notre main-d'œuvre. Dans un monde idéal, l'intégration de personnel local serait la solution, mais on est loin de pouvoir compter sur un bassin suffisant d'enseignants inuits, dit Jeanne Dupuis. Autre défi. La région a un taux de décrochage très élevé. On parle de 80 % des élèves quittant avant la fin du secondaire, couplé à un autre défi. Le niveau académique des finissants, bien plus faible qu'au sud. Il faut savoir que le concept même de scolarité n'est intégré ici que depuis les années 1960, rappelle Jeannie. Ça explique que souvent, les parents soient eux-mêmes mal outillés pour appuyer leurs enfants dans les travaux scolaires, et encore plus vrai pour les élèves inscrits en français. Cela dit, on a moins un problème de diplomation, réussite académique des élèves du secondaire 5, qu'un énorme défi de rétention. Maintenir nos ados à l'école jusqu'en fin de parcours. Le cégep du Nunavik, un rêve bientôt réalité? Et après, pour entrer au cégep, donc en allant étudier au sud, la marche est très haute. Beaucoup doivent s'y reprendre à deux, trois fois pour réussir une combinaison de niveaux académiques et d'éloignement géoculturel. Sans compter le défi post-diplomation. Pourrais-je plus tard obtenir dans ma communauté l'emploi correspondant à mon diplôme? Heureusement, grâce à quelques cas modèles comme les premiers policiers inuits, notre première pilote d'avion, les premières infirmières inuites, etc., la donne s'améliore peu à peu, nuance Jeannie. Ce qui l'amène vers une question souvent débattue. Notre région offre déjà toute la séquence garderie, maternelle, primaire, secondaire, professionnelle. Comment y ajouter l'étape suivante? L'enseignement collégial. Le Nunavut compte déjà sur son Arctic College, 1500 étudiants répartis en une demi-douzaine d'établissements. Pourquoi pas le Nunavik? Pour la directrice générale adjointe, cet enjeu est très actuel. En amont des études de faisabilité, on a lancé l'étape des consultations publiques. Que souhaite la population? Un campus unique ou décentralisé? Une structure autonome ou en partenariat avec des cégeps au sud. Privilégier l'enseignement général menant vers l'université ou plutôt le professionnel formant plus rapidement des employés qualifiés. Chose certaine, le collégial dispensé ici deviendrait pour nos jeunes un incitatif puissant à compléter leur secondaire. Bien sûr, on a déjà des partenariats avec des collèges de Montréal, en français à Marie-Victorin ou Montmorency, en anglais à John Abbott. Reste qu'actuellement, le Nunavik est encore la seule région du Québec ou même du Canada sans offre collégiale sur place. Les plus et les moins de la Convention de la baie de James et du Nord québécois. Si on renégociait la CBJNQ, que conserver? Que changer en priorité? C'est comme simple citoyenne qu'elle répond. À conserver? Bien sûr, notre système éducatif qui a su évoluer en s'adaptant à notre réalité et qui explique la relative bonne position de notre langue comprise par 99% des Inuits du Nunavik, le plus haut niveau des quatre régions Inuits du Canada. Un système qui doit continuer à faire augmenter la proportion du personnel Inuit, mais il faudrait réviser la gestion de la Convention dans son ensemble. Comme tant d'autres personnes interrogées dans cette série journalistique, elle cible le régime foncier. Avec la division des terres en trois catégories, on a perdu le contrôle sur la majorité du territoire. Comment le récupérer? Rapport entre instances ethniques et non ethniques. Interrogée sur la combinaison d'instances ethniques, la société Makivik, le Conseil de la jeunesse Kwarjuit, et non ethniques, les municipalités, l'ARK, la commission scolaire, la Régie régionale de la santé, Jenny Dupuis conserve le ton modéré mais sincère qui la caractérise. Ceux qui voudraient retirer le droit de vote aux non-inuits sont très minoritaires. Personnellement, je n'ai aucun problème à voir un blanc siéger à la commission scolaire. N'a-t-il pas été élu par une majorité d'électeurs inuits? Mais hors des établissements scolaires, alors oui, s'exprime quelquefois cette tendance plus radicale, par exemple dans les débats sur l'autogouvernance du Nunavik. Mais les questions identitaires ne se posent-elles pas partout ailleurs? C'était « Un système scolaire aux défis multiples », un texte de François Bellemare, paru le 22 janvier 2025 dans le Nunavois.
Le projet de loi sur la pratique des nouveaux médecins au public ne va pas assez loin, disent des organismes. Un texte de Florence Morin-Martel, paru le 5 février 2025 dans Le Devoir. Le projet de loi présenté par le gouvernement Legault qui veut obliger les nouveaux médecins fraîchement diplômés au Québec à pratiquer 5 ans dans le réseau public est nettement insuffisant. Pour contrer la présence du privé en santé, ont affirmé mercredi une clinique communautaire et différents organismes du milieu. Nous ne sommes pas contre le projet de loi 83. Or, on le qualifie de mesure cosmétique parce qu'il y a d'autres enjeux plus graves et importants concernant l'incursion du secteur privé en santé, a souligné en point de presse Stéphane Defoy, organisateur communautaire à la clinique de Pointe-Saint-Charles à Montréal. L'événement tenu en matinée regroupait aussi les médecins québécois pour le régime public, le Collectif pour un Québec sans pauvreté, la Coalition Solidarité Santé, ainsi que l'Association des retraités et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec, AREC-CSQ. La conférence de presse a été organisée en marge des consultations au sujet du projet de loi qui s'ouvre jeudi à l'Assemblée nationale du Québec. Selon le texte législatif, les médecins qui enfreindraient le règlement s'exposeraient à des amendes allant de 20 000 $ à 100 000 $ par jour et par acte. En cas de récidive, celle-ci serait doublée. Ce projet de loi est une première étape pour favoriser l'exercice de la médecine au sein du réseau public, avait souligné en décembre le ministre de la Santé, Christian Dubé. D'autres actions sont toutefois nécessaires pour réduire les inégalités croissantes qu'entraîne la présence du privé dans les soins de santé, a soulevé Stéphane Defoy. Ce qu'on veut, c'est la disparition du privé en santé. Mais ce qu'on constate, c'est que c'est tout le contraire qui arrive en ce moment. Parmi les pistes de solutions, les différents organismes suggèrent notamment de limiter à tout au plus une seule fois par année les allers-retours que peuvent faire les médecins entre le régime public et le privé. Il n'existe pas au Québec une infinité de médecins. Plus il y en a qui pratiquent au privé, moins il y en a qui exercent au public. C'est ce qu'on appelle les vases communicants, a soutenu la docteure Juliette Lemieux-Forget, membre du conseil d'administration des médecins québécois pour le régime public. Une incohérence de la part de Québec. Après avoir déposé le projet de loi 83 le 3 décembre dernier, le ministre Dubé a annoncé le lendemain qu'il élargissait l'offre d'intervention chirurgicale pouvant se faire sans frais au privé, a rappelé l'organisateur communautaire Stéphane Defoy. Ce n'est pas une porte ouverte au secteur privé, c'est une autoroute qu'on crée pour proposer des services dans le privé qui sont payés à même les budgets de la santé. Selon lui, le gouvernement a fait preuve d'incohérence en dévoilant cette mesure au sujet des opérations après avoir présenté un texte législatif pour favoriser l'exercice de la médecine au sein du réseau public. Les différents organismes présents au point de presse ont également dit être inquiets de voir plusieurs groupes de médecine familiale, GMF, être détenus par des entreprises plutôt que par des médecins. Leur raison d'être est de faire réaliser un maximum de profits à leurs investisseurs, s'est désolé Pierre Rillet, membre du comité de lutte en santé de la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles. M. Rillet a donc suggéré que l'obtention du statut de GMF et du financement soit conditionnelle au fait que les administrateurs soient en majorité des professionnels de la santé. Joint par Le Devoir, le cabinet de Christian Dubé a soutenu que le projet de loi 83 ne constituait qu'une première étape. Nous réfléchissons à différentes solutions, notamment concernant les allers-retours entre le public et le privé. Nous serons à l'écoute des commentaires des partenaires dans le cadre des consultations à partir du 6 février. C'était « Le projet de loi sur la pratique des nouveaux médecins au public ne va pas assez loin ». Disent des organismes. Un texte de Florence Morin-Martel paru le 5 février 2025 dans Le Devoir.